Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Cette fois, ça y est, les papiers du divorce sont prêts et il n'y a plus qu'à les signer, ce qui ne sera sans doute pas le plus facile, mais le Brexit a avancé de quelques pas hier à Bruxelles, où les 27 pays de l'Union européenne ont validé l'accord négocié pied à pied pendant 17 mois. Theresa May va devoir convaincre les membres du Parlement britannique, ce qui ne s'annonce pas facile. Cet accord d'un peu moins de 600 pages a des implications politiques, juridiques, économiques. S'il est validé, il y en aura également s'il ne l'est pas. Brexit avec accord, Brexit sans accord, voire pourquoi pas de Brexit. Que va-t-il se passer maintenant dans ces différents grands cas de figure? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Emmanuel Saulnier-Cassia, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit de l'Union européenne à l'université Versailles-Saint-Quentin, en droit communautaire, en droit constitutionnel. Et vous êtes l'auteur d'une thèse sur les parlements français et britannique et l'Union européenne et auteur d'un ouvrage à paraître sur le Brexit. Ce sera quand?
Quand on arrivera à la date fatidique.
D'accord. Et Thierry Philippona, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directeur de l'Institut Friedland, un cercle de réflexion économique qui émane de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Le message du sommet d'hier à Bruxelles, c'est quoi? C'est voilà comment ça va se passer et quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de renégociation. C'est ça ou rien, Emmanuel Saulnier-Cassia?
Du point de vue des Européens, oui. C'est une étape pour permettre la suite, c'est-à-dire la suite en interne devant le Parlement britannique. Sans l'adoption, enfin sans l'approbation par le Conseil européen, on ne pouvait pas encore avoir de vote et de débat au Parlement britannique. Et le Parlement britannique lui-même conditionne la suite en droit de l'Union européenne, c'est-à-dire le passage devant le Conseil européen et le Parlement européen. Donc on a juste avancé d'un pas.
On a avancé de quelques pas ou d'un pas, on est au bord de la falaise là, Thierry Philippona.
On a avancé de quelques pas parce que le Brexit, si on le regarde d'un point de vue économique et du point de vue britannique, c'est quand même un très grand exercice d'autodestruction. Après toutes les affres et les rebondissements qu'on a connus depuis 2 ans et demi, il y a un accord sur la table qui a au moins un mérite, il a plein les mythes, mais il a au moins un mérite, c'est de permettre une continuité et de permettre de continuer à travailler, d'échanger, de fonctionner d'un point de vue économique. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut sauvegarder, parce que c'est de l'ordre de l'intérêt général des Britanniques, mais également des Européens.
Alors, on n'aime pas trop faire dans la fiction dans cette émission, mais là, disons que bon, les options se resserrent quand même. Hein. Donc, une supposition, cet accord est validé par le Parlement britannique, le vote c'est le 11 décembre. Que se passe-t-il le 29 mars 2019, date officielle du Brexit sur le plan juridique, Emmanuel Saulnier-Cassia?
Alors dans cette hypothèse fiction, en effet, parce que rien n'est acquis,
c'est loin d'être le cas.
Eh bien, le texte est un tout petit peu nettoyé, il est traduit dans les 24 langues officielles de l'Union européenne, il est transmis au Parlement et au Conseil de l'Union européenne en même temps. Au Parlement européen, c'est la Commission des affaires constitutionnelles qui en discute, puis qui transmet à l'Assemblée plénière pour un vote à l'Assemblée plénière qui doit se prononcer à la majorité simple. Et du côté du Conseil de l'Union européenne, il doit y avoir un vote d'approbation à la majorité qualifiée, c'est-à-dire 72% des États qui votent pour, représentant au moins 65% de la population.
Alors, sur le plan économique, Thierry Philippona, est-ce que on arrête les échanges le 29 mars 2019
Si l'accord est validé, oui. En fait, l'idée est très simple, tout continue comme avant.
Exactement.
Tout continue comme avant, au moins jusqu'au 31 décembre 2020. Avec une différence tout de même, mais cette différence, elle est juridique, c'est une différence de gouvernance, c'est-à-dire que le Royaume-Uni continue d'appliquer les règles de l'Union européenne. Tout pareil, donc pour vous et moi et pour les citoyens britanniques ou les entreprises britanniques, il n'y a aucune différence. Simplement, la Grande-Bretagne n'a plus voix au chapitre. Elle ne participe plus au Parlement, à la Commission, au Conseil. Et donc, elle prend les règles de l'Union européenne sans avoir la possibilité de participer à leur élaboration.
Elle n'élit plus de députés au Parlement européen aux élections de mai-juin, par exemple. La Grande-Bretagne est spectatrice des décisions qui sont prises pendant un an et demi, c'est ça que ça veut dire?
Absolument. Ce qui vient d'être dit est absolument juste. le Royaume-Uni n'aura plus voix au chapitre pour définir les règles, mais il continuera à les appliquer, mais aussi à bénéficier d'un certain nombre de règles, puisqu'il pourra continuer à bénéficier de l'octroi de subventions européennes pendant toute la période de transition.
Pour les gens qui sont installés de part et d'autre de la Manche, on connaît pas mal de monde, hein, forcément, il y a des Européens qui sont installés à Londres et partout en Grande-Bretagne, il y a des retraités britanniques qui sont installés en France, par exemple, Thierry Philipona, qu'est-ce que ça change pour eux ?
Alors, encore une fois, on est dans le scénario, il y a un accord, alors jusque fin 2020, ça ne change rien. Et puis, cet accord, il nous dit quoi? En fait, ce d'accord, bon, en anglais, il y a le mot backstop. En français, on pourrait dire solution de rechange. Parfois, on dit filet de sécurité, que sais-je. C'est, en fait, la solution qui s'imposera si aucune autre solution réputée meilleure n'a pu être négociée d'ici là. Et dans les deux cas, en fait, pour les citoyens, alors, jusque fin 2020, il n'y a aucune différence. À partir de fin 2020, il y a très peu de différence. Il y a les différences sont très faibles. Par exemple, pour un citoyen français installé au Royaume-Uni, il faudra s'enregistrer sur un site internet, je crois qu'il y aura 2 ans, entre mars 2019 et juin 2021, où il faudra aller s'enregistrer, etc. Mais l'accord sera obtenu à condition que le citoyen ait vécu au moins 5 ans au Royaume-Uni auparavant. Donc pour les gens qui étaient déjà là, la vie pourra continuer tout pareil. Et vice-versa pour les Britanniques qui sont dans l'Union européenne.
Emmanuel Saulnier-Cassia, on sent quand même qu'il y a des inquiétudes. On connaît des Européens installés qui envisagent éventuellement de prendre la nationalité britannique. Il y a beaucoup d'échanges de nationalités qui se font en ce moment. Je crois que la demande de nationalité irlandaise de la part de Britanniques a explosé ces derniers temps. C'est quelque chose qui est facile à obtenir, à traiter.
Ce n'est pas forcément facile à obtenir, mais c'est quand même une très bonne idée pour essayer de conserver complètement ses droits à la citoyenneté européenne. Parce que tout ne sera pas réglé, tout ne sera pas complètement comme avant, une fois la période de transition écoulée et une fois que l'on sera éventuellement dans le filet de sécurité ou pas, si un autre accord est trouvé, il y a des droits qui découlent de la citoyenneté européenne qui, là, ne bénéficieront plus à ces citoyens européens, aux anciens citoyens britanniques, par exemple, comme le droit de vote aux élections municipales s'ils sont installés dans une petite commune française, par exemple.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce backstop, ce filet de sécurité, Thierry Philipona, et vous après, Emmanuel Saulnier-Cassia ?
Alors, déjà, le principe, c'est de dire, on fait une période de transition qui va nous permettre de discuter, de réfléchir, de négocier à l'accord qui doit régir nos relations à la fin de cette période de transition. Mais comme une négociation de ce type est éminemment complexe d'un point de vue technique et politique, évidemment, on prévoit une solution qui s'imposera à nous si on ne trouve pas un autre accord. Donc c'est ça le principe. Donc le backstop, le filet de sécurité, c'est la solution qui sera celle qui s'imposera aux parties si une autre solution réputée meilleure n'est pas trouvée. Et pour faire très très simple, cet accord, alors il fait 585 pages, je vais pas tenter de le résumer là. D'un point de vue économique, le point essentiel consiste à dire que l'ensemble du Royaume-Uni, y compris l'Irlande du Nord, vont rester dans ce qu'on appelle, alors ils n'ont pas utilisé le mot union douanière, mais territoire douanier commun, ce qui veut dire en gros que les biens, j'ai bien dit les biens, pas les services, pourront circuler librement entre la Grande-Bretagne, y compris l'Irlande du Nord, et puis le reste de l'Union européenne, et que des droits de douane communs, les tarifs douaniers communs, seront appliqués par le Royaume-Uni comme s'il était dans l'Union européenne. Par contre, ça ne s'appliquera pas aux services. Et par contre, il y aura une conséquence, c'est que le Royaume-Uni ne pourra pas négocier des accords de libre-échange et des accords commerciaux sur les biens, pas sur les services, du fait qu'il sera dans cette union douanière. Et puis il y a une autre conséquence qui est très forte pour les Britanniques, c'est que afin d'être dans cette, on va l'appeler union douanière, le Royaume-Uni hors Irlande du Nord s'engage à ne pas revoir à la baisse un certain nombre de normes environnementales, les normes en matière de concurrence, d'aide d'État, en matière sociale, fiscale également, afin de ne pas créer une concurrence déloyale vis-à-vis du reste de l'Union européenne. Ce qui, bien sûr, crée un débat au Royaume-Uni, car le fait de revenir sur des normes européennes faisait partie des revendications des Brexiteurs.
Emmanuel Saulnier-Cassia, vous voulez compléter ce qui vient d'être dit ?
Tout ce qui a été dit était très juste. Il faut juste rappeler que ce filet de sécurité a été envisagé uniquement en raison du problème de la frontière irlandaise. S'il n'y avait pas eu cette question de la frontière irlandaise, dont le caractère physique ne souhaite pas être rétabli à la fois de la part des Britanniques et des Européens en raison d'un accord conclu pour installer la paix
l'accord
sur
du
ce
vendredi
territoire,
saint.
Exactement, le Good Friday Agreement, et qui est un point de discorde au sein même de l'Irlande et au sein du Royaume-Uni, parce que si une frontière physique était rétablie, ce qui devrait normalement être le cas, une fois que le Royaume-Uni sort, eh bien, ça remettrait en cause donc cet accord de paix.
Et ça rappellerait de bien mauvais souvenirs, évidemment, parce que...
Absolument. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument trouver une solution, et que c'est la seule solution qui ait été trouvée, ce partenariat douanier, mais qui n'en est pas une, en réalité, puisque c'est une partie de continuité de ce qui existait jusqu'alors, et dont les vrais Brexiteurs ne veulent plus, en réalité. Donc, c'est un jeu de dupes.
À la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, il y aura, ça veut dire, aucun contrôle douanier des camions qui pourraient circuler, Thierry Philipponin, pas de scan des camions comme on l'avait évoqué à une époque.
C'est clairement l'objectif. Alors cette idée d'une technologie qui permettrait d'éviter, etc., visiblement, ça fait partie de ce que certains critiques anglais appellent la pensée magique. Autrement dit, on invente quelque chose et on se dit que ça va exister, sauf que ça n'existe pas, donc ça veut juste rien dire. Non, la solution qui a été trouvée, quand on réfléchit, c'est une question de bon sens, hein. Il y a eu des milliers de pages qui ont été écrites sur le sujet, mais ça se résume en 30 secondes. La frontière, dans l'absolu, il faut qu'elle passe soit entre l'Irlande du Sud et l'Irlande du Nord, soit entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.
Bon, en mer d'Irlande, quelque part.
La solution qui a été trouvée, qui est la moins mauvaise dans une situation qui était très très mauvaise à la base, donc ça ne veut pas dire qu'elle est bonne dans l'absolu, c'est que l'Irlande du Nord restera dans le marché unique. D'accord. Ce qui veut dire, par rapport à la question des normes que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il devra suivre les normes européennes dans leur évolution. Alors que le reste du Royaume-Uni ne sera plus dans le marché unique, donc n'aura pas le droit de régresser sur les normes, mais ne les suivra plus, entre guillemets, à la hausse. Donc, on voit quand même qu'il y a une forme de frontière, entre guillemets, qui est relativement soft,
Mais qui est infaisable en réalité.
Et
juridiquement, c'est pas jouable.
En fait, c'est pour ça qu'on n'est pas arrivé à une solution jusqu'à présent. Mmh. Parce que finalement, on repousse la discussion qui a échoué pendant 2 ans. C'est pour ça qu'il y a cette période de transition. Pour se donner encore 1 an et demi pour trouver une solution sur l'Irlande. Mais il n'y a pas de solution en réalité. C'est ça qu'il faut dire. Il n'y en a pas.
Je suis totalement d'accord. S'il y avait une solution avec tous les gens qui ont réfléchi depuis 2 ans et demi, on l'aurait trouvée. Je veux dire, faut pas croire qu'en 1 an et demi, une fois qu'on a dit qu'il faut que la frontière passe quelque part, on a tout dit.
À partir du moment où un État souhaite sortir, les frontières se redressent. C'est normal.
Autre supposition, on en a un peu parlé, évidemment, cet accord n'est pas validé par le Parlement britannique. Il y a donc Brexit le 29 mars sans accord. C'est le filet de sécurité dans un premier temps qui s'applique, Thierry Philipponin.
Non, on ne sait pas. En réalité, on ne sait pas. D'abord, il faut savoir ce qui va se passer entre le vote négatif, s'il y a un vote négatif, et le 29 mars. Mm-hmm. Parce que plein de choses peuvent se passer. Il peut y avoir une démission de Madame May, il peut y avoir le vote d'une motion de censure par ses petits amis conservateurs.
Un nouveau référendum ?
Il peut y avoir éventuellement un nouveau référendum, c'est théoriquement possible, politiquement assez difficile, si il y a la convocation d'une élection générale et que cette élection générale donne gagnant le Parti travailliste. Là aussi, c'est assez hypothétique, mais qui sait ? Et qui pourrait provoquer un second référendum. Apparemment, ils ne sont pas tous favorables, mais c'est tout à fait possible. Et le jour J, c'est le saut de la falaise. C'est-à-dire qu'on n'a pas de période de transition, parce que la période de transition ne s'applique que si l'accord de retrait est voté.
Thierry Philipponin, le saut de la falaise, c'est des camions qui s'entassent dans les ports français et européens et dans les ports britanniques. C'est C'est des gens qui font la queue à la frontière, comme on n'a plus du tout l'habitude de le voir dans l'Union européenne. C'est quoi?
C'est tout ça. C'est des tarifs douaniers aux frontières. En moyenne, ils ont été calculés. C'est pas tout à fait la même chose à l'import et l'export, mais vous avez des tarifs douaniers d'environ 5%. Sur l'automobile, c'est 10% de tarifs douaniers entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Faut savoir que l'industrie automobile emploie 1 million de personnes au Royaume-Uni. Que vont faire les constructeurs qui sont installés aujourd'hui au Royaume-Uni? Bah, ils vont aller s'installer ailleurs.
Ça Il y a déjà des délocalisations d'usines qui se produisent chez Michelin, notamment.
Absolument. Donc sur la question des échanges, ça va être grain de sable, mais je suis très très en dessous de la réalité, quoi. Ça va être très très compliqué. Sur les échanges aériens, ça va être extrêmement difficile. Sur les services financiers qui concernent le Royaume-Uni au plus haut point, il y a un énorme travail à faire pour trouver des équivalences. Et il est juste inconcevable que ce travail d'équivalence soit fait jusque d'ici mars prochain. On pourrait multiplier les exemples, c'est juste totalement irréaliste. Donc, si il n'y a pas d'accord, non seulement le filet de sécurité, par définition, ne rentre pas en œuvre, puisqu'il n'a pas été signé, mais on va avoir une disruption massive de la vie ordinaire et des échanges économiques.
Et c'est aussi l'arrêt des subventions européennes, il ne faut pas l'oublier. Par exemple, pour la politique agricole commune, qui est pourtant tellement décriée par le Royaume-Uni depuis tellement longtemps, puisque c'est ce qui avait justifié
le fameux rabais
britannique, en effet.
I want my money back.
Il y a environ 3,1 milliards d'euros par an, quand même, au titre de la politique agricole commune, qui vont aux agriculteurs britanniques. Et d'ailleurs, Theresa May, il y a quelques temps, avait essayé de les rassurer en leur disant que des aides nationales prendraient le relais des aides européennes. Ça montre bien que ces aides sont nécessaires. Dans le domaine de la recherche et de l'innovation, c'est pareil. Il y a à peu près 1 milliard d'euros par an qui sont dévolus à ce domaine-là, à ce volet-là. Donc c'est un coût très dur.
Et pour vous donner une idée, pour quantifier les choses, il y a 44% des exportations britanniques qui se font à destination de l'Union européenne. Donc du jour au lendemain, vous avez 44% de ça représente 7,5% du PIB britannique. Voilà, qui du jour au lendemain, ça reprendra un jour.
Mais enfin, taxé en tout cas rapidement.
Et en tout cas, à l'instant T, je veux dire, photographie 30 mars au matin, on arrête. Il y a un tiers des exportations britanniques, et ça c'est encore plus, c'est un petit peu plus subtil, mais au moins aussi important que les exportations brutes, qui transitent par le territoire de l'Union européenne pour être réexportées plus loin, réexportées ailleurs, parce que c'est ce qu'on appelle les chaînes de valeur, etc. Ça s'arrête. Ça veut dire que quand un équipementier français veut acheter un morceau de sa valeur ajoutée au Royaume-Uni, il ne peut plus le faire. Donc le Royaume-Uni se retrouve mécaniquement exclu des chaînes de valeur.
Ajouter dans ces échanges la nécessité d'établir de nouveaux contrôles sanitaires et phytosanitaires qui ont un coût, qui ont des délais pour être exercé, qui nécessite des reconnaissances d'équivalence si on ne garde pas les règles harmonisées comme c'est actuellement le cas.
Les douaniers britanniques et européens sont prêts ou non?
Alors, il y a des préparatifs assez récents qui ont été organisés à la fois au Royaume-Uni et notamment en France, puisque la France est très concernée évidemment par ces échanges, avec la création plusieurs centaines de postes de douaniers supplémentaires pour faire face éventuellement aux no deal.
Et tout ceci explique que Theresa May dit aujourd'hui, c'est le seul deal possible pour éviter un crash, quoi. C'est certainement pas parfait dans une situation qui est de toute façon horrible, mais c'est la seule chose possible pour essayer
tout en continuant à mentir quand même à son peuple.
Et si on vous suit bien, c'est quand même plutôt le Royaume-Uni qui a le plus à perdre dans cette histoire, même si les Européens vont avoir un coup aussi sur leurs exportations. Merci Emmanuel Solnier-Cassia, merci Thierry Filippona d'avoir participé à cette émission, merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Valentin Vanner. Vous pouvez nous retrouver, nous écoutez, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles. Participez au débat du jour sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.